La voix de Lucide Beausonge. Et pendant que Lucide chantait, nous étions en conversation avec mes deux invités que je vous annonçais tout à l'heure et que je vous présente maintenant. Le professeur Henri Laborit, que nous avons eu le plaisir de rencontrer ici dans ce studio l'année dernière, et le docteur Yves Kenville, que nous avons eu l'idée de réunir tous les deux parce que, d'une part, le professeur Laborit est invité à ce 8e congrès international sur les soins aux malades en phase terminale, qui a lieu en ce moment à Montréal. Et le docteur Kenville, ben, ça vous le savez, travaille auprès des, entre autres, en particulier des cancéreux en phase terminale à l'hôpital Notre-Dame, et ça depuis plusieurs années. Donc, évidemment, son intérêt pour la question est connu et important. Par contre, Henri Laborit, et heureusement d'ailleurs, j'ai eu accès au texte de la conférence que vous allez prononcer au cours de ce congrès, parce que moi, je me disais, pourtant, j'ai pas tout lu, mais il me semble que les malades en phase terminale, ça n'a pas été dans son champ de recherche et tout ça. Évidemment, d'ailleurs, vous faites une mise au point en disant, c'est pas ça qui m'intéresse moi, mais par contre, les états de choc différents et variables qui intéressent ces gens-là.
On m'a posé une question à laquelle j'ai répondu.
Tout à fait, qui dit...
C'est le stress terminal de la vie en approche de la mort. Bon, le stress, alors là, je connais, j'étais un très grand ami de Célier, qui m'a même invité à son 60e anniversaire. Il y avait une centaine de personnalités invitées au Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Oui. Madame Célier m'a encore invité l'année dernière à déjeuner pour faire une vidéo avec, sur son mari, je ne sais pas où il en est d'ailleurs. Donc, je connaissais bien Célier, mais dans le terme de stress, j'avais pu mettre un contexte expérimental. Précis. Pour ça que j'ai très tardivement utilisé le terme de stress, que tout le monde utilise actuellement, c'est la tarte à la crème, hein, le stress, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et on disait, d'ailleurs, ce n'est pas traduisible en français, l'acception que Célier voulait lui donner, c'est-à-dire agression et réaction organique à l'agression. Et l'un de mes premiers livres chez Masson, qui a paru en 1952, s'appelait « Réaction organique à l'agression et choc ». J'étais chirurgien en plus, donc c'est moi ce qui m'intéressait, c'était le choc. Mais comme. Et ça m'a amené à, si vous voulez, à faire une thérapeutique du choc qui maintenant s'appelle. Et d'anesthésie d'ailleurs, l'anesthésie étant non plus un moyen d'endormir le malade seulement, mais un moyen de protéger contre l'agression chirurgicale, s'appelle la neuroleptanalgésie. Et j'ai eu beaucoup de plaisir que les Américains viennent de créer une association mondiale de neuroleptanalgésie. On m'a demandé d'être président d'honneur. Donc finalement, des trucs que j'ai fait il y a 30 ans, ou 40 ans, oui, 30 ans.
Rebondissent maintenant,
40 ans.
Et d'ailleurs, il y a un pont, parce que si au départ, c'était les chocs opératoires ou chocs traumatiques qui vous intéressaient, lorsqu'on parle de ces malades en phase terminale, on est tout à fait en situation de choc aussi. Qui peut prendre toutes sortes de formes, Dr. Kenville, mais c'est un peu une situation dans ce cas-là qui va se terminer par la mort du patient, mais on est en situation de crise.
Remarquez que je pense qu'il faut faire quand même une distinction, et je crois que vous serez d'accord, entre la mort événement et la mort processus, n'est-ce pas, qui est complètement différente à partir du moment où quelqu'un apprend ou sait ou se rend compte que sa maladie grave ou sérieuse ne va plus guérir, s'engage un processus qui est celui dit de la phase terminale, qui, faut bien le dire, n'a rien de commun avec l'événement mort, qui, au dire des malades eux-mêmes, ne fait pas tellement peur comme événement. C'est plutôt ce qui se passe entre le moment où on sait que ça va arriver et le moment où ça arrive, qui souvent fait très peur parce que, bien sûr, il y a la douleur morale, la dépression et la douleur physique qui s'en mêlent.
Vous n'avez pas lu mon texte?
Si, je l'ai lu.
Je l'ai lu.
Tout à fait.
Je suis content que vous l'ayez lu, d'ailleurs, parce que moi, j'étais un peu inquiet, hein, de... Mais en fait, dans le stress, c'est ça. Pour moi, le stress, c'est l'inhibition de l'action. Quand on ne peut plus rien faire et qu'on se rend compte que c'est foutu, qu'on est en état de non-possibilité de contrôler son environnement de telle façon qu'on puisse être bien dans sa peau, effectivement, c'est ça le stress. Mais ça demande un processus de mémoire. Ouais. Et je pense qu'un enfant qui vient de naître, qui n'a pas de mémoire parce qu'il n'a rien appris, ne peut pas... Si, la mort, pour lui, ne doit pas être quelque chose de très stressant, puisque... Pour moi...
Parce qu'il n'y a rien d'inscrit.
Voilà, il n'y a rien d'inscrit dans son cerveau. Ouais. Alors moi, la seule chose qui m'a fait plaisir de répondre favorablement à cette demande qui m'était faite, d'abord c'est parce que j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus actuellement, c'est à la mode, vous en savez quelque chose. Ouais. Bah, bon, depuis Kubler-Ross, ça...
Et maintenant, Elisabeth... vous à Paris aussi.
Eh oui, il y a un bouquin qui vient de sortir. J'ai tout.
Il y en a plein.
Pour préparer ce congrès, j'ai lu au moins 5 ou 6 bouquins qui anglo-saxons pour la plupart, et il y a un bouquin français qui est pas mal fait d'ailleurs.
Mais il y a beaucoup qui se fait en France maintenant aussi dans,
oui,
dans le domaine.
Bien sûr. Hein. Oui.
Mais j'ai vu aussi en lisant votre texte que vous vous intéressez particulièrement, et ça me sourit aussi, que vous vous intéressez particulièrement à ce qu'on appelle désormais la neuropsycho-immunologie, c'est-à-dire la possibilité qu'on a d'influencer, n'est-ce pas, son système immunologique. Or, il se trouve que pour nous, dans le domaine, dans le champ du cancer, là où il y a la tristesse, la dépression et de la douleur, on sait très bien qu'une personne qui est en douleur, par exemple, voit ses défenses naturelles, ses killer cells, diminuer, alors que si on traite bien la douleur, n'est-ce pas, son potentiel de guérison s'améliore.
Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est que je suis... tous ces livres, les cocktails lithiques, c'est l'affreuse chose, la chose qui tue, etc. Or, je suis le père des cocktails lithiques. C'est moi qui ai donné le nom.
Sauf que leur emploi a été vicié.
Voilà. Mmh. Exactement. Moi, ils protégeaient les malades, hein, ils supprimaient l'angoisse, ils supprimaient la réaction organique à l'agression chirurgicale et psychiatrique ensuite, parce qu'on m'a accusé aussi d'être à l'origine des, faut le dire, des camisoles chimiques. Mais quand j'ai vu, moi, jeune médecin, hein, de garde à l'hôpital, des gens mourir dans des camisoles de force, hurlant, couverts de sueur.
D'épuisement.
Et d'épuisement. Ouais. Eh bien, on se dit que les camisoles chimiques, de temps en temps, ça, quand même, ça améliore les choses.
Donc, et il faut bien le dire, et étant psychiatre moi-même, je peux le dire, c'est que l'arrivée de la molécule de chlorpromazine, que vous avez synthétisée, l'arrivée de la molécule de chlorpromazine appelée ici le Largactyl, et chez vous aussi, je crois,
Largactyl.
Et une révolution extrêmement importante, thorazine aux États-Unis, et c'est aussi ici au Canada que cliniquement les premiers emplois en Amérique ont été faits ici à Montréal.
D'ailleurs, vous employez quelque part dans votre texte le mot de criminel pour des gens qui ont mal utilisé, ou peut-être parce que au départ la posologie était mal comprise, les situations d'exception pas toujours bien analysées, mais en tout cas là où il y a eu des décès, là où il y a eu des accidents, c'était à votre avis pas du tout nécessaire. Mais donc cette partie-là du travail pharmacologique, c'est nécessaire dans l'approche de la douleur pour des malades en phase terminale. C'est vital, me dit Yves Kenville, parce que...
Et ça les protège, ça les prolonge quand on l'utilise bien, comprenez. Ça empêche que leur système... Parce que la morphine, j'ai fait l'étude pharmacologique de la morphine. D'ailleurs, la morphine, actuellement, l'adénosine va peut-être la remplacer. Bon, ça, pour ce qui est de la douleur, si vous voulez. Eh bien, parce qu'on se demande si l'adénosine, si la morphine n'est pas libérée par une libération d'adénosine. Donc, les opioïdes centraux, etc., cérébraux, etc. Bon, mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est que la morphine traite la douleur, mais ne traite pas la réaction organique à l'agression. Ça, j'en ai apporté les preuves. C'est-à-dire qu'on a quand même une libération de cortisone, de corticoïdes, si vous voulez. On détruit son système immunitaire malgré la morphine.
Mais je pense que dans le domaine du traitement de la douleur...
Dans le cocktail lithique, on le protège, ce système immunitaire.
Vous avez raison, dans la mesure où on a découvert tout récemment qu'il y a deux types de douleurs. Il y a des douleurs opiacées, c'est-à-dire qui répondent à la morphine, et des douleurs non opiacées qui ne répondent pas, et où il faut utiliser ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des co-analgésiques, c'est-à-dire une médication qui vient potentialiser ou améliorer l'effet de la morphine. Le Largactyl en étant une, d'ailleurs, lorsqu'on a affaire à des douleurs qui viennent des viscères.
Alors, pour faire comprendre, je voudrais dire quand même, ça tout le monde peut le comprendre et ne peut être que d'accord, c'est que tout le monde sait combien on a des millions de malades ont été tirés d'une mort imminente avec de la digitale, quand ils étaient en insuffisance cardiaque avec un édème aigu du poumon. Mais on sait très bien que si on injecte de la digitale comme ça, on zigouille son malade, alors à tous les coups et rapidement, et moins agréablement qu'avec un cocktail lithique, remarquez. Bon. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que un médicament ou un mélange de médicaments comme celui-là qui agit à plusieurs niveaux, comme le cocktail lithique, peut être extrêmement efficace, même pour protéger le malade aux approches de la mort, j'insiste. Quand il est utilisé intelligemment, on l'utilise pour tuer, bien sûr, alors là, c'est un problème d'éthique.
Docteur Laborie, dans votre texte, vous parlez de ces mémoires qui sont inscrites en nous et qui remontent souvent à la première relation privilégiée qu'on a avec sa mère, sur laquelle on est très collé. Et il y a un texte merveilleux qui est écrit par un de vos compatriotes, Michel de Musan, qui dit que, et nous, on est à même de le vérifier, et je ne sais pas quelle résonance ça peut avoir pour vous, que souvent le mourant, au terme de sa vie, cherche par gourmandise relationnelle à recréer cette relation privilégiée avec une personne.
Ce que les psychanalystes appellent
la dernière diade.
Bien sûr. On a retrouvé ce moment bien heureux où on était bien, on était dans son liquide amniotique et ensuite dans les bras de la mère. quand les fesses étaient un peu roses, on lui mettait de la crème, on lui légendait le petit tutu du bébé, etc. Enfin, y a tout un... ce que Freud avait bien vu, d'ailleurs, c'est cette période d'apprentissage du principe du plaisir. Alors que quand il a fait son schéma corporel et qu'il sait qu'il est seul dans sa peau jusqu'à la mort, quand il s'est séparé et qu'il a vu qu'il était limité dans sa peau, c'est les, bon, la,
le stade du miroir,
du miroir de Lacan, à ce moment-là, il découvre le principe de réalité. Le principe de réalité ne obéit pas ni à ses envies, ni à ses désirs. Et il a composé avec, c'est ça.
Et est-ce que c'est un peu la démarche, parce que là je m'éloigne du traitement pharmacologique, lorsqu'on est avec au jour le jour avec des malades en phase terminale, est-ce que c'est un peu beaucoup le dernier bout d'accompagnement qu'il faut faire provoquer? Ça peut être fait bien sûr par voie de médication, parce que ça a un impact sur notre corps, la façon dont on réagit, mais mentalement aussi.
Bon, je crois qu'à tous égards, on est absolument tenu de soulager la douleur. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. À l'origine, quand le mouvement des soins palliatifs a commencé, c'était une intuition généreuse que de dire qu'il fallait moralement traiter les gens pour leur douleur. Maintenant, on sait de façon scientifique qu'une personne cancéreuse qui ne reçoit pas de traitement adéquat pour sa douleur voit ses défenses naturelles s'abolir, diminuer et raccourcir ses jours. Par conséquent, on a maintenant des raisons scientifiques de bien traiter la douleur. Cela dit, l'accompagnement humain, précisément à cause de cette gourmandise relationnelle qu'ont les gens au terme de leur vie de vouloir se redonner à nouveau du plaisir, pour parler simple, nous est imposé également et nous avons à répondre à ce besoin donc de satisfaire le désir de plaisir que ressentent les personnes mourantes, même si dans nos acceptions et nos conceptions à nous, ça nous paraît tout à fait incroyable qu'au terme de sa vie, on ait encore besoin de plaisir et de contact physique.
Mais ça doit être très difficile, d'ailleurs le docteur Laborit l'évoque un peu dans son texte, on gère tellement bien la mort maintenant, on a des équipements, on a du personnel autour, etc., c'est pas du tout propice à un accompagnement justement personnalisé qui nous ramène dans l'intimité première là, et nécessaire dans ce cas-là.
S'il est vrai que la gestion de la mort devient une affaire technique et technologique, je suis d'accord avec vous, Michel, que
D'ailleurs, je ne discute pas, c'est dès le début, je dis, c'était... L'homme est devenu un objet pour la médecine tel qu'on oublie que c'est un homme. Et ça, je pense que il y a eu là une révolution importante à partir des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross.
De lui rendre une position de sujet.
Voilà. Mais alors ça, c'est. Mais pour être sujet, il y a le fait effectivement de rencontrer un autre sujet et qui lui-même, s'il faisait vraiment son auto-analyse, verrait que c'est pas par gentillesse seulement qu'il a cette attitude chaleureuse vis-à-vis du mourant. C'est par rapport à lui-même. À côté de ça, la connaissance, quand même, n'a jamais empêché d'être chaleureux. Et connaître comment fonctionne son cerveau m'a fait plaisir. On peut le dire avant que je vous ai parlé de choses un peu compliquées, de biochimie. Mais vous avez l'air, bien que le métier que vous fassiez est un métier de chaleur humaine, vous êtes parfaitement au courant de la façon dont fonctionne un cerveau humain.
Et ça, je crois qu'il le faut.
Cette connaissance, elle est pas réductrice. Elle est au contraire, elle est amplificatrice du comportement qu'un individu, sachant comment lui fonctionne dans son cerveau depuis sa naissance, et comment l'autre fonctionne, celui le mourant qu'il a assisté, c'est pas contradictoire, au contraire, c'est complémentaire.
D'ailleurs, vous avez une très belle image là-dessus, vous dites, si on se rend compte que celui qui meurt est en train de mourir avec nous, c'est-à-dire que c'est nous qui mourons à travers lui et collectivement, et de la même façon que nous avons vécu ensemble et parce que nous sommes mêmes et uniques, donc à ce moment-là, il s'est même plus l'empathie généreuse.
Nous avons les autres.
D'ailleurs, disons-le, dans les soins aux mourants, il y a place pour beaucoup plus que le simple missionnariat et les simples bonnes intentions. Il y a place aussi pour la connaissance, il y a place pour la recherche, il faut bien le dire, pour que ça ne reste pas au chapitre, justement, de la bonne intention humaine qui ne trouve pas son point d'ancrage dans des connaissances.
Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le point sur ce qui est disponible maintenant pour soulager une partie de cette douleur physique et puis de l'entourage pour faire atténuer la douleur morale, créer de meilleures conditions. Pour que ça se passe vraiment dans les fêtes et pour tout le monde, parce qu'on parle souvent d'équipes de pointe et pas toujours accessibles partout, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 2 minutes et puis qu'on développe sur cet aspect-là tout de suite après.
Très bien.
D'accord. Amalia Rodriguez, Coimbra. Nous revenons à Montréal, où mes invités, Henri Laborit et Yves Kenville, en marge du 8e congrès international sur les soins aux malades en phase terminale. Notre discussion amorcée depuis tout à l'heure, qui a été technique pendant un moment, bon, il y avait du poussiérage à faire là, puis moi j'avais beaucoup de rattrapage, on va s'en dire. Mais on revient au niveau où ça se vit la plupart du temps, c'est-à-dire rapport d'abord d'un patient avec le personnel traitant, son médecin, les spécialistes autour, et puis son entourage également, parce que ça se passe jamais seul. D'ailleurs, Dr Kenville, dans sa pratique quotidienne à l'hôpital Notre-Dame, doit passer, j'imagine, au moins autant de temps avec les familles qu'avec les patients eux-mêmes lorsqu'ils sont en phase terminale. Et j'allais dire que ce qu'on décrit comme symptômes et physiques et psychologiques depuis tout à l'heure, ça doit être ressenti par la bande et peut-être de façon un peu moins violente à peine par le reste de la famille, surtout en termes de douleur.
On pourrait le formuler ainsi, Michel, lorsqu'un organe d'un corps est malade, c'est tout le corps qui est atteint, et lorsqu'un membre d'une famille est atteint, c'est toute la famille qui est atteinte. Et il n'y a pas de doute que pour nous, ceux à qui nous nous adressons ne sont pas seulement les malades, mais bien sûr leurs proches en interaction constante. Et pour nous, il est absolument primordial, essentiel, que tout se passe, je dirais, sous le chapiteau d'une relation thérapeutique qui est fondée sur la connaissance la plus profonde possible du sujet, de la personne qui est devant nous, et bien sûr de sa constellation familiale et de sa vie dans tous les aspects de cette vie-là. Autrement, il n'y a pas de relation possible, de franchise possible. On n'arrive plus à parler le même langage si tout le monde ne sait pas, si tout le monde aussi n'est pas abrité, je dis encore une fois, sous ce chapiteau de la relation thérapeutique connaissante.
Oui, je pense que je ne voudrais pas être à votre place. Parce que, finalement, un individu, c'est surtout une mémoire. Alors, même si on prend connaissance des relations qu'il peut avoir dans son environnement immédiat, familial, professionnel, de classe sociale, etc., bon, tout ce que nous appelons engrammé, qui est rentré dans son système emmagasiné dans son système nerveux et qui est codé là-dedans dans ses neurones, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître. Je sais bien que les psychanalystes pensent qu'après un certain nombre de séances de divan, ils arriveront à le faire sortir, mais à travers quoi? À travers un langage, qui est toujours biaisé. Parce que nous ne savons pas, je suis incapable de connaître mon inconscient. Tout ce que je sais, c'est que je m'en méfie parce que j'ai quelques grands cadres que mon métier m'a appris et qui me permettent de me dire, attention, là, j'ai tel jugement, je pense ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est mon apprentissage culturel, mes automatismes culturels qui, depuis ma naissance, et peut-être avant, aboutissent à ce jugement? Et ça, alors là, c'est très difficile parce que c'est avec chaque membre de la famille, et vous savez comme moi, les familles, hein, c'est la haine, l'amour, là, c'est...
Ah, la compétition, les conflits, tout.
Ah, l'intérêt de... Ouais. Sur l'avion qui m'a amené, la Air France, il y avait un film qui est passé, que je ne sais plus son titre d'ailleurs, où il y avait une femme qui venait de mourir, et on voit toute la famille qui s'amène, et alors là, tout le monde rigole, tout le monde est content, parce que alors il y a l'héritage, alors il y a la division de l'héritage, les bagarres qui se passent. Et finalement, c'est ça aussi, la famille. On a l'air d'être, parce que ça fait bien de dire, ah, oh, quelle tristesse, il va mourir, gna gna gna. Bah oui, puis au fond de soi-même, on dit, tiens, j'ai hérité de la résidence secondaire. Bon. Oui. Et c'est donc très difficile pour un médecin comme Kenville d'avoir un rapport harmonieux et efficace entre le malade, le mourant, et la famille. Moi, je ne sais pas comment vous faites.
Hein, ça doit être difficile pour le mourant aussi, parce que lui aussi, lucide, au moins autant que le médecin peut être intuitif, va sentir ces conflits-là qui ne sont pas toujours résolus et puis qui s'ajoutent à sa douleur morale, en tout cas.
Ouais. Et primo, je dois dire que je ne fais pas ça tout seul, je fais ça avec une équipe.
Ben oui,
et
oui.
Que cette équipe est une équipe qui est multidisciplinaire et qui, par conséquent, est capable de s'adresser, n'est-ce pas, à toutes les facettes de la personne. Mais... Je voudrais revenir brièvement à une partie de votre propos qui tient justement à cette mémoire qui est inscrite dans les fibres de chacun de nous. Et ça me soulève cette question suivante. Nous avons l'habitude chez nous de parler franchement aux gens et d'établir la vérité en ce qui concerne leur diagnostic et souvent leur pronostic. C'est même une coutume maintenant nord-américaine très bien établie. Et je sais, pour y être allé souvent, qu'il y a plus de résistance en France. Or, la question que ça me pose est la suivante, hormis la question du consentement éclairé, c'est celle du corps qui, même si on voulait faire semblant que rien ne se passe, du corps qui continue de parler et de la nature qui continue de s'adresser à la personne et qui, par conséquent, s'adresse justement à ces souvenirs qui sont inscrits dans le corps d'un moment où il y a eu bonne santé, d'un moment où il y a eu équilibre et tout ça est engrammé, comme vous le dites si bien. Mais alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier ce corps qui parle, n'est-ce pas, et qui dit « je suis malade » et qui dit même parfois « je vais mourir aussi » et ne pas parler, nous, en tant que soignants, dans le même sens que la nature?
Oui, c'est une conversation que j'ai eue assez souvent parce que j'ai un grand ami, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est assez... Boy Scout, c'est Schwarzenberg.
Oui, je le connais.
Bon, ben il est effectivement pour dire aux gens que bon, ils ont un cancer, par exemple, et qu'on leur donne 6 mois. Bon, je dis ça quand même, moi, ça me semble un peu dangereux.
Tout nous, on ne donne jamais gens. Ça 6 mois, par exemple.
Bon, enfin, on ne donne pas de date, mais enfin, quand même, on dit que ça peut pas durer très longtemps, quoi. Vous êtes condamné, comme on dit. Non. Et ça, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend à qui on s'adresse. On retrouve d'ailleurs dans ce texte que j'ai proposé, là, on retrouve les différentes étapes décrites par Elisabeth Kubler-Ross. Ouais. Évidemment, quand vous êtes en inhibition de l'action, la première chose, ou alors on dénie, on dit non, c'est pas vrai, ils sont. Bon, ça c'est facile. Mais actuellement, les gens croient suffisamment à la médecine pour quand un médecin dit vous êtes foutu, hein, bah, ils y croient. Bien. Alors, deuxième point, révolte. Pourquoi moi ? C'est pas juste, hein, il n'y a pas de bon Dieu, etc. Deuxièmement, il y a
marchandage.
Le marchandage, ouais. Exactement. Et puis finalement, il y a soit la dépression, soit l'imaginaire. Alors, c'est là où les mythes, les religions peuvent agir, parce que ça permet d'espérer en un monde meilleur. Et la dépression, elle, alors là, c'est la fin. À partir du moment où le malade est déprimé. Alors, ce qui m'intéresse, vous m'ont posé la question parce que je n'ai rien lu là-dessus. Est-ce qu'on a fait des dosages, soit de catécholamine plasmatique, soit de cortisol à des gens en différentes phases qui approchent de la mort?
Je connais assez bien la littérature portant sur la question et je ne sache pas qu'en effet ce genre de dosage-là, je pense que ce que vous dites est tout à fait vrai, à cette exception aussi, ou cette nuance près, que les étapes décrites par Kubler-Ross, malheureusement, n'arrivent jamais comme elles les a décrites. Il y en a qui n'arrivent pas.
Oui, ça dépend des gens.
Elles peuvent même survenir les 5 dans la même journée. Et ensuite, il y aura une fixation qui se produira au marchandage ou à la colère pour tout un bout de temps. Ce qui donc, sur le plan de la sémantique et de l'approche même des mourants, peut poser certains problèmes. Mais je pense que la proposition est intéressante. Ça me soulève une question que j'aimerais absolument vous poser.
Allez-y.
Qui est celle de l'éthique, précisément, de la recherche à faire sur les mourants. Quelles en sont les limites? Quelles en sont les limites acceptables pour
vous? Ce que je vous propose, là, ce que je proposais, c'est pour le mourant. C'est pas pour la connaissance. Ça servirait à la connaissance, bien sûr, mais c'est pour le mourant. Si vous avez un mourant, enfin, mettons pas à la dernière limite, parce qu'à ce moment-là, je pense que son système immunitaire, dont vous parliez tout à l'heure, la neuro-immunomodulation, il doit être complètement à plat. Bien. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. J'ai dit à radio, et j'ai eu le lendemain une quantité de coups de téléphone, j'ai dit à la radio française, il y a 2 ans, je crois, à peu près, que j'étais tout à fait d'accord pour qu'on fasse cette propagande sur le sida, cette masse de médiatique sur le sida. Mais le monsieur qui est séropositif, qui n'attra peut-être, on ne sait pas, mais qui n'attrapera peut-être jamais le sida.
Le sida maladie. Ouais.
Le sida maladie. Si on lui dit, voilà, vous êtes séropositif, vous allez avoir le sida, vous allez en crever parce qu'on ne sait pas comment le soigner. Bon. Mais vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de virus du sida. Il va bloquer simplement par l'angoisse, la trouille, la peur, pas la peur, l'angoisse. Il va bousiller son système immunitaire et faire le travail que fait le virus du sida. Et voilà un exemple que vous pouvez comparer à l'approche de la mort. Est-ce qu'un monsieur est, à une époque donnée de son approche de la mort, a encore un système immunitaire qui est valable, ou est-ce qu'il ne l'a plus? S'il ne l'a plus, effectivement, bon, là, mais... Je pense que même très très loin...
À quel moment atteignons-nous l'irréversibilité immunitaire?
J'ai un cousin qui a 32 ans et il a eu un cancer du testicule. Vous savez comme moi que hein, c'est pas jojo. Le cancer du testicule, en général, ça pardonne pas. prenait un certain nom, j'envoyais à Schlossenberg, qui lui a dit, bon, mais ce type a 32 ans, c'est un type baraqué, on lui a enlevé son testicule, il a commencé par faire une métastase intestinale, je crois, puis hépatique, puis pulmonaire. Il y a 5e fois qu'il passe sur une table d'opération, il y a 2 ans de ça. Il vient de traverser la Méditerranée en bateau, il pète le feu, mais parce qu'il est persuadé qu'il va s'en tirer et qu'il veut s'en tirer. Et je pense, je ne vais pas demander à Schwarzenberg, il faudra que je lui demande, je lui ai téléphoné encore il y a 8 jours, il faudra que je lui demande, est-ce qu'on a fait un dosage des anticorps et une mesure d'activité de ses killer cells, etc. Enfin, tout son système immunitaire, est-ce qu'on a fait ça? Parce que je suis persuadé qu'il a actuellement, ce gars-là, il a un système immunitaire qui se défend comme une brute. Et à ce moment-là, effectivement, s'il y a de nouvelles cellules cancéreuses qui apparaissent, il va les bousiller, il va les tuer. Alors que le type qui n'a plus de système immunitaire, parce qu'il est, et alors ça, je vous l'affirme, d'ailleurs, actuellement, c'est devenu la neuro-modulation, mais il y a, en 1974 ou 72, puisqu'on est bourré de cortisone en état de stress, il est manifeste qu'on ne doit plus avoir de système. Je ne suis pas immunologiste. Mais que le système immunitaire est bourré, tout le monde sait. Et il y a le bel lurette qu'on sait que quand un médecin prescrit de la cortisone, il nous donne un antibiotique en plus. Bien sûr. Hein, parce que c'est un immunosuppresseur. Il est très puissant, ça peut, ça empêche la sécrétion. Ça c'est simple à comprendre pour tout le monde, pour un grand public, la sécrétion par les cellules immunitaires de ce qu'on appelle les interleukines. Et les interleukines, c'est celles qui vont mobiliser tout le système nerveux central et le système endocrinien. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, je pense que c'est pas tellement simple de dire à quelqu'un, être très franc avec lui, il y a des moments où ça colle, puis il y a des moments où... Et ça, c'est en rapport avec toute l'expérience antérieure du sujet, toute sa vie antérieure. C'est pour ça que moi, je préfère être dans un laboratoire actuellement, après avoir été chirurgien, donc la fausse Jojo qui est tout content d'enlever un estomac, une vésicule ou un utérus. Je suis content d'être dans un laboratoire parce que je serais très, très gêné avec les connaissances que nous avons actuellement, mais qui sont incomplètes, puisque nous ne pouvons pas pénétrer dans la texture d'un individu pour savoir quelles sont ses mémoires, ce dont il se souvient, ses échecs, ses désirs inassouvis, toute sa vie antérieure et qu'il ne connaît même pas lui-même. Elles ne sont pas présentes, elles sont inconscientes. Comment manipuler tout ça? Ça doit être pas commode. Hein.
C'est pas commode.
C'est pas commode, je comprends.
Mais peut-être que, au fond, aussi, la pratique de la médecine, et vous le savez, conduit forcément un jour, et Dieu merci, c'est une bonne chose, et vous y êtes arrivé, à une espèce de, comment dirais-je,
de
philosophie,
vision.
Sagesse,
oui,
vision globale, plus cosmique. Oui. Et ça, je crois que c'est un tournant aussi dans votre généreuse carrière, non?
Mais je crois que, alors là, si on veut dire pour quelque chose qui me semble alors extrêmement important, c'est que le médecin, surtout, parce que c'est à lui, c'est en lui qu'on croit. Bien sûr qu'il y a tout le personnel infirmier qui va avoir une attitude correcte ou incorrecte, enfin chaleureuse ou pas chaleureuse avec le malade. Mais je crois qu'il faut dire qu'il faut laisser l'espoir. Parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, comme on dit. Enfin, si on dit au type, vous êtes irrémédiablement foutu, c'est foutu, à ce moment-là, il va supprimer l'angoisse, va supprimer son système immunitaire. Donc il faut lui dire, c'est grave, hein, mais moi c'est ce que je pense. Et c'est grave, à moins les dernières heures, les derniers jours, mais c'est grave, mais il y a quand même, vous pouvez vous en tirer. À partir du moment où il croit qu'il va s'en tirer, c'est ce qui passe pour ce cousin, hein, il bombe.
Et vous savez, même quand on leur dit, quand ça arrive qu'ils se font dire qu'ils ne vont pas, ils survivent, l'espoir reste encore.
Bien sûr.
Docteur Henri Laborit, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Docteur Yves Kenville, merci beaucoup.
Au revoir, monsieur.
Laissez-moi vous dire que je vous remercie, je vous remercie de le connaître, parce que je ne connaissais pas, mais c'est très sympa de se rencontrer, ça, c'est sûr.
Pour moi,
on est très proches.
Oui,
c'est vrai.
À très bientôt, j'espère.